Les États-Unis connaissent depuis le 22 décembre 2018 le plus long shutdown de leur histoire du fait du bras de fer qui oppose le président Donald Trump au Parti démocrate sur le budget de l'État fédéral. Les démocrates refusent de financer la construction du mur anti-migrant souhaité par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Pour sortir de l'impasse, Donald Trump a proposé samedi dernier d'offrir des extensions de permis de séjour à environ 1 million de migrants risquant d'être expulsés du pays en échange du financement par le Congrès de son mur à la frontière avec le Mexique. Proposition pour l'instant refusée par les démocrates. Et donc, nous allons parler de ce shutdown parce que c'est un moment historique et puis parce qu'il révèle aussi le chemin parcouru par Donald Trump et une situation politique bien particulière pour comprendre ce qui se joue dans cette situation américaine inédite. Deux invités. Tout d'abord, Romain Huret. Bonjour. Vous êtes historien des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS, vice-président de l'EHESS en charge de la recherche. Vous avez notamment publié « La fin de la pauvreté, les experts sociaux et la guerre contre la pauvreté aux États-Unis ». À côté de vous, Laurence Nardon. Bonjour, vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Vous êtes l'auteur notamment des États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Taillandier. Et peut-être tout d'abord, pour débuter, Laurence Nardon, nous dire en quoi consiste le shutdown.
Bah, le shutdown, ça s'est déjà produit dans l'histoire, c'est le plus long hein, aujourd'hui. C'est que le président a refusé de signer le budget présenté à lui par le Congrès et que donc il n'y a plus de budget et que les administrations doivent fermer. Faute de budget, les travailleurs ne peuvent pas être payés. Alors, ils seront payés une fois que les choses seront rétablies. Hein. Mais un certain nombre d'institutions fédérales ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui.
Mais ça est assez incroyable parce que on n'imagine pas un instant en France qu'on puisse décider, par exemple, de ne pas payer les fonctionnaires.
Ah, mais ils sont pas payés, ils sont leur paye est suspendue en attendant que le budget soit
nouveau. Ils n'ont pas d'argent. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Grégory Phillips. Certains font des petits boulots, conduisent des taxis. C'est accepté aujourd'hui en Amérique?
Il y a aux États-Unis ce grand respect des institutions. Et donc, si dans les institutions il y a marqué que le Congrès vote la loi, mais que la loi doit ensuite être votée par le président et que ça ne se fait pas, il n'y a pas vraiment un réflexe de condamnation des institutions ou du système tel qu'il est. Il y a une grande condamnation du président dans l'opinion publique aujourd'hui sur ce sujet, également du Congrès, hein, dont le taux de confiance dans la population est au plus bas. Mais il n'y a pas... C'est un petit peu comme lors des élections présidentielles, lorsque le candidat qui a eu le moins de voix est néanmoins élu, ce qui s'est passé avec Trump et puis dans d'autres exemples récents de l'histoire. L'opinion américaine ne remet pas en cause le système institutionnel.
Et donc, ça n'est pas évidemment la première fois que le shutdown est utilisé. Reagan, notamment, en a fait une utilisation abondante, Romain Huret.
Oui, ce n'est pas la première fois, alors c'est la plus longue. Et comme il vient d'être dit, l'Amérique est frappée par la durée et la violence des débats. On a vu Trump intervenir le long de la frontière avec le Mexique, tenir des propos extrêmement violents, et malgré tout ils sont rares dans la vie politique américaine. On a rarement eu, et on a l'impression que Ronald Reagan ou George Bush étaient des enfants de cœur hein, à côté des propos tout à fait violents de Trump. Et donc là on a quand même une prise de conscience. On a vu apparaître des cagnottes par exemple sur Internet où les Américains donnent de l'argent pour les employés fédéraux, ce qui est nouveau. On a vu apparaître aussi des Américains qui eux-mêmes ont décidé d'aller travailler dans les parcs nationaux pendant les vacances pour venir en aide, pour que l'administration fédérale continue à exister. Et donc je dirais que si la pratique elle a existé depuis longtemps, on voit des réactions un peu étonnantes, et je crois que la détestation hein, à l'égard de Trump explique pourquoi les Américains ont envie de s'impliquer davantage que ce qu'ils n'ont fait dans le passé et de venir en aide au gouvernement fédéral, ce qui est une nouveauté dans l'Amérique très contemporaine.
Et oui, parce que comme cela a été dit, Romain Huret, ce shutdown y provient du fait que le budget n'est pas voté. Mais alors, il y a quand même certaines professions ou certains postes qui, eux, sont maintenus, quand même. Les postes notamment liés à la sécurité du territoire. Et les militaires, par exemple, ne sont pas payés, mais ils doivent continuer à travailler, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ils doivent, pour les raisons que vous avez évoquées, hein, la question de la sécurité, ils doivent continuer à exercer. Mais comme il a été dit, ils vont être payés. Regardez, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans deux jours. Donc c'est, il y a une habitude aussi.
Bah, ça fait quand même deux mois qu'ils ne le sont pas.
Il y a quand même une habitude du shutdown. On finit par prendre l'habitude et on sait que ça finit par se résoudre et qu'à un moment ou à un autre, il y aura un compromis. On a vu Trump reculer un petit peu. Et j'espère que le compromis sera le plus rapide et qu'on ne va pas s'éterniser pour ces pauvres fonctionnaires américains qui ne sont plus payés.
Vous semblez incrédule, Laurence Nardon.
Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un compromis et que les choses se calment. Ça va, j'espère, fatalement se produire. En même temps, on ne voit pas très bien comment ça va marcher, comment ça va se faire, puisque le sujet du shutdown, qui est donc le fait que Trump a pris en otage le Congrès en réclamant le financement de ce mur, la question de ce mur, qui est donc la question de l'immigration aux États-Unis, elle est devenue aujourd'hui un tel signal idéologique pour les deux parties qu'on ne voit pas comment lui, d'un côté à la Maison-Blanche, et de l'autre côté en face Nancy Pelosi, qui est la speaker démocrate de la Chambre, on ne voit pas comment les uns et les autres pourraient faire des compromis sur ce sujet.
À l'origine, donc, c'est une sorte de caprice, de chantage, je ne sais pas quel terme employer, de Donald Trump qui provoque le shutdown, Laurence Nardon ?
Oui, il y a un chantage, ça c'est évident. Et puis là,
c'est-à-dire qu'en fait, les démocrates ne veulent pas financer ce mur. Lequel mur devait être financé au départ par les Mexicains ?
Oui, ça c'était une élucubration de campagne de Donald Trump. Trump réclame 5,7 milliards dans le budget qui lui est présenté par les démocrates. Qui ont la majorité à la Chambre pour construire le mur. Les démocrates ne veulent pas en entendre parler, présentent un budget sans ces 5,7 milliards de dollars, et donc Trump refuse de le signer.
Ça n'est évidemment pas un argument en tant que tel, mais juste pour avoir un ordre d'idée, le budget américain est de quel ordre ?
Une centaine de milliards de dollars, je pense. Donc c'est pas... Et non, le mur lui-même devrait faire 9 ou 10 milliards à la fin. Donc là, il réclame une première tranche.
Et cette première tranche, donc, elle est refusée avant tout pour des raisons qui sont évidemment des raisons politiques. Laurence Nardon, est-ce qu'il y a aujourd'hui une décision de la part des démocrates de freiner, voire de s'opposer à toute politique migratoire de Donald Trump ? Y a-t-il un compromis possible ?
Alors, dans le climat de polarisation actuel, le compromis, ça me paraît difficile de toute manière. Mais vous avez raison de dire que les démocrates ont des positions en matière d'immigration qui sont pas forcément no border, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément extrémistes dans le sens d'une ouverture totale sans aucune règle. Ils présentent aussi des projets. Depuis longtemps, d'ailleurs, il y a des deux côtés raisonnables, on va dire, l'idée qu'il faut remettre sur la table la question du droit à l'immigration aux États-Unis, la question du chemin vers la citoyenneté américaine pour les immigrants qui arrivent. Il y a eu, dans l'histoire récente, un certain nombre de discussions entre les deux parties pour élaborer des politiques. Et puis, une fois qu'on vient aller voter, à discuter des amendements, en réalité, la politisation, la radicalité ou la médiatisation des choses fait que les compromis, dans les faits, deviennent impossibles à obtenir.
Romain Huret, et le refus de ce mur, il est évidemment sévèrement critiqué par les Républicains, tout simplement parce que les Républicains considèrent que ce mur, il est là pour empêcher l'immigration illégale. Y a-t-il là aussi un débat ? Est-ce que ce mur pourrait avoir une utilité si on essaie de se faire l'avocat de Donald Trump ? Ça n'est pas tous les jours facile, mais enfin, y a-t-il des arguments en faveur de ce mur ?
Alors, je vais essayer d'être l'avocat de Donald Trump et plus que Donald Trump lui-même, de son électorat. Pourquoi est-ce que le mur est-il aussi populaire aujourd'hui dans l'électorat de Donald Trump et l'idée qu'il faut une barrière sécuritaire entre les États-Unis et le Mexique ? Pour comprendre cela, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a en ce moment une crise sanitaire extrêmement violente aux États-Unis qu'on appelle la crise des opiacés. Et cette crise des opiacés est une crise de consommation de médicaments et de drogues dans des États qui étaient peu habitués jusqu'alors à connaître ces phénomènes d'addiction. Et on a des États comme le Kentucky ou la Virginie-Occidentale, qui sont des bastions de Donald Trump, où on a vu apparaître depuis 30 ans des épidémies d'overdose qui n'ont jamais été connues dans ces États-là. C'était plutôt New York, Chicago ou Los Angeles. Nous avons des États ruraux qui connaissent cette crise sans précédent, qui est une vraie crise épidémiologique aux États-Unis. Et l'électorat de Donald Trump et les habitants du Kentucky ou de la Virginie-Occidentale pensent que le mal vient du Mexique et le mal vient des trafiquants de drogue qui importe en masse ces drogues qui ont créé cette épidémie dans les États. Et donc symboliquement pour l'électorat de Donald Trump, le mur est attractif hein, puisqu'il a créé cette, il va créer une barrière infranchissable entre les États-Unis et le Mexique et mettre un terme à cette crise qui ravage les États-Unis.
On écoute d'ailleurs Donald Trump à ce sujet.
Notre frontière sud est un vrai pipeline qui fait entrer d'énormes quantités de drogues comme la méthamphétamine, l'héroïne, la cocaïne et le fentanyl. Chaque semaine, 300 de nos citoyens meurent à cause de l'héroïne seule. 90% de cette drogue provient de notre frontière sud. Cette année, il y aura plus de victimes de la drogue qu'il n'y a eu de victimes durant toute la guerre du Vietnam.
Grandement urbain, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Et c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a fait une tournée des États-Unis après l'élection. Il voulait rencontrer le pays réel, l'Amérique profonde. Et au retour de son voyage, il a expliqué que ce qui l'avait le plus frappé, c'était ces épidémies de mort, hein. C'est dans des états ruraux, dans des états qui ont l'air si calmes, c'est l'Amérique éternelle, les small towns américaines, et il a observé ces épidémies, ces familles entières ravagées par la drogue, et il en est ressorti hein, tout à fait changé, transformé par cela, et je crois que Donald Trump a bien saisi, hein, plus que le Parti démocrate ne l'a fait en 2016, l'ampleur de l'épidémie, qui à la fois suscite des réactions très violentes de la part de la population, hein. C'est le mur dont vous parlez, mais a également provoqué une détestation, il faut le dire aussi, du gouvernement fédéral et du pouvoir des lobbies, puisque la population accuse le gouvernement fédéral, les administrations en charge de la régulation des médicaments et le Congrès d'avoir permis aux entreprises pharmaceutiques de commercialiser ces médicaments, alors que beaucoup connaissaient les dangers. Il y a eu des rapports qui sont parus depuis peu qui montraient que les entreprises étaient au courant des dangers et et la possibilité que ces médicaments suscitent des comportements addictifs. Et donc il y a une vraie violence hein, de la part des populations, une détestation très forte qui se manifeste à la fois par des procès qui sont en cours dans la plupart des États que j'ai mentionnés contre les entreprises pharmaceutiques, mais également une détestation de Washington qui a autorisé tout cela. Et donc quand Laurence Nardon évoquait le Congrès qui est au plus bas, Washington qui est au plus bas aussi dans l'opinion publique américaine, il faut bien avoir en tête cela pour une partie de l'électorat de Trump. Washington, ce sont des lobbies, ce sont des arrangements entre les grandes entreprises et les élus au détriment du peuple américain.
Laurence Nardon.
Oui, effectivement. En fait, c'est le grand méchant, enfin l'un des grands méchants dans cette affaire, c'est la firme pharmaceutique Purdue Pharma, qui dans les années 90 a obtenu l'administration fédérale en charge de la régulation des médicaments, la FDA, l'autorisation de prescrire des médicaments à base d'opiacés pour les grandes douleurs, le dos, les cancers en phase terminale, mais aussi les césariennes, enfin tout un tas de douleurs. Ils ont réussi, ils ont eu le droit de prescrire ce médicament.
Mais alors, ce que l'on comprend mal et ce qui peut passer, mais peut-être à tort pour une fake news, c'est qu'on se dit que malheureusement, cette épidémie dont on a souvent parlé sur France Culture, cette épidémie, elle est liée à une utilisation détournée de médicaments et pas à du trafic de drogue venu du Mexique.
Si, parce qu'en réalité, les gens qui innocemment prenaient ces médicaments, ce que leur médecin leur avait prescrit, et d'ailleurs, c'est l'explication de l'irruption de cette épidémie dans des zones jusque-là peu touchés par les drogues, c'est qu'en fait c'était des gens qui avaient les moyens d'aller chez le médecin et de se faire prescrire. Donc c'était en gros les classes moyennes plutôt blanches de ces régions plutôt calmes jusqu'alors. Ces gens prenaient des médicaments comme cela pendant 15 jours à peine et se retrouvaient accros, si vous voulez, aux opiacés. Ils s'en faisaient represcrire par le médecin qui finalement commençait à se rendre compte qu'il fallait plus leur prescrire ce médicament. Ces gens, dans une douleur de drogués terrible, se tournaient alors vers l'héroïne de rue pour soulager leur addiction. Et l'héroïne de rue, bien souvent venue du Mexique, puis vers des médicaments fabriqués en Chine probablement et extrêmement puissants, comme le fentanyl dont Trump a parlé dans l'extrait que vous avez passé. Il faut savoir que Prince est mort d'une overdose de fentanyl, par exemple. Et donc, les choses sont aujourd'hui extrêmement graves, puisqu'on a une grande partie de la population plutôt aisée, ou en tout cas pas les populations auxquelles on pense habituellement avec le crack, qui touchait par exemple la communauté noire à New York dans les années 80-90. Voilà un problème énorme.
En dehors de cela, en dehors de cette nouvelle question, Romain Huret, il y a une surprise de découvrir que l'immigration pose désormais problème, en tout cas pour l'électorat républicain, alors même qu'on avait l'impression que les États-Unis étaient d'une part un pays qui acceptait l'immigration de manière quasiment consubstantielle, et puis aussi parce que on imagine que ces immigrants illégaux, notamment d'origine mexicaine, ils sont aujourd'hui indispensables à certains États. Que deviendrait la Californie s'il n'y avait pas des immigrants illégaux? J'insiste là-dessus. Et alors, dans ces conditions, comment les républicains voient-ils les choses?
Je pense que les républicains sont beaucoup plus divisés que vous ne le dites. Il y a une aile dure, incarnée par Trump, qui est très hostile à toute forme de migration et qui en fait un élément symbolique pour son administration. À côté de cela, il y a des hommes d'affaires, et notamment des petits hommes d'affaires dans les États du Sud-Ouest, qui sont assez favorables à l'immigration parce que c'est une main-d'œuvre indispensable aux entreprises et aux petites entreprises. Donc il y a plus de divisions qu'on ne le croit. Ensuite, Trump a tellement pris l'ascendant sur le Parti républicain et mène une politique symbolique extrêmement dure et en fait un enjeu de sa présidence, parce qu'il faut bien voir que ce qui est en train de se passer là, c'est un tournant probablement de la présidence.
Pourquoi?
Dans un sens ou dans l'autre, puisque les deux partis, comme Laurence Lardon l'a dit précédemment, se polarisent, se concentrent autour de cette question du mur, et lui-même a décidé d'en faire un enjeu de sa présidence en allant jusqu'au bout. Il est allé au bout de l'absence de compromis, il est allé au bord de la frontière, il a refusé tout compromis, il a accusé les démocrates d'être des moins que rien, des gens qui sont prêts à laisser rentrer n'importe qui dans le pays. Donc il y a une vraie polarisation autour de cela, et donc je crois que une partie du Parti républicain qui était modérée jusqu'alors risque de se radicaliser également autour de ces questions-là.
On va revenir sur les conséquences politiques et sur la manière dont on peut faire un bilan, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans que Donald Trump est au pouvoir, mais Laurence Nardon, n'y a-t-il pas aussi un sentiment qui croit vis-à-vis de Donald Trump, puisque cela passe à tort peut-être, mais cela passe en tout cas comme du chantage de la part de Donald Trump, et donc il y a un shutdown parce que finalement son bon plaisir n'est pas aujourd'hui accepté ou réalisé par les démocrates.
Oui, d'autant plus qu'il a trouvé en Nancy Pelosi, comme je disais tout à l'heure, une adversaire assez
son
résolue.
Son
adversaire démocrate. Mais cette polarisation, elle est totale, effectivement, et elle est d'autant plus étonnante qu'en réalité, les démocrates eux-mêmes, c'est assez complexe, puisque les syndicats américains, traditionnellement, sont plutôt contre l'immigration, parce qu'elle fait baisser les salaires, et elle n'est pas toujours très positive pour le salarié. Qui plus est, le mur existe déjà, puisque depuis Clinton, Obama et démocrates ont eux aussi contribué à la construction, alors ils appellent ça plus élégamment, d'une clôture le long de la frontière.
On vous retrouve dans quelques instants, Laurence Nardon et Romain Hurin. Laurence Nardon, les États-Unis de Trump en 100 questions chez Taillandier, et Romain Hurin, la fin de la pauvreté aux éditions de l'EHESS. Il est 8h sur France Culture. Suite des matins, oui, il est question du shutdown, puisque vous le savez, les États-Unis connaissent depuis le 22 décembre 2018 le plus long shutdown de leur histoire du fait du bras de fer qui oppose le président Donald Trump au Parti démocrate sur le budget de l'État fédéral, les démocrates refusant de financer la construction du mur anti-migrant souhaité par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. On a parlé d'une tentation, selon Frédéric Saïs, pour l'exécutif français, d'aller vers la droite. L'évolution que Donald Trump a entraînée sur la politique américaine, on a beaucoup parlé le concernant de populisme, de dérive droitière. Est-ce que aujourd'hui, la vie politique américaine a évolué vers la droite de manière sensible? Est-ce que l'on peut toujours utiliser le qualificatif de populisme, Laurence Nardon, pour qualifier Donald Trump?
Oui, l'ambiguïté de la politique de Trump depuis 2 ans, c'est que il a navigué entre des objectifs très conservateurs, qui n'étaient pas les siens au départ, mais qui sont portés par l'aile traditionnellement conservatrice du parti. Donc ça, c'est la nomination des juges à la Cour suprême, par exemple, qui ont un agenda très rétrograde sur les questions de mœurs, et puis sur ce qui est de son populisme originel, qui était à la fois un populisme de gauche anti-élite, hein, qui était très clair dans sa campagne en 2016, mais également un populisme de droite anti-étranger. On voit que au final, Trump a tenu ses promesses. Hein. Je me souviens, vous vous souvenez peut-être de son discours d'inauguration il y a 2 ans exactement, le discours du carnage, on l'a appelé comme ça, qui avait été écrit par Stephen Miller, un de ses idéologues, sur la même ligne que Bannon d'ailleurs, où il décrivait la vraie Amérique ravagée par des élites qui les avaient trahis, etc. Après une année 2017 où le président avait semblé s'assagir sur certains dossiers, là depuis un an il est clair qu'il fait effectivement tout ce qu'il a promis contre le libre-échange, contre l'immigration, etc. Et donc il a un agenda que, en France, on dirait d'extrême droite nationaliste, très clairement.
Avec quelles conséquences sur les démocrates? Y a-t-il une recomposition du parti démocrate? Y a-t-il aujourd'hui une alternative à Donald Trump, Romain Huret?
Je crois que les démocrates ont compris qu'ils avaient commis une erreur historique en 2016 en négligeant l'Amérique en souffrance dont Laurence Nardon vient de parler, et que Hillary Clinton était un peu aveuglée par la nouvelle économie, par les nouvelles technologies, par la Silicon Valley, par une Amérique prospère, hein, des deux côtes, hein, la côte atlantique et la côte pacifique, et que l'Amérique de l'intérieur était oubliée. Et on a vu les démocrates au cours des élections de mi-mandat présenter des candidats et des candidates surtout d'un genre très différent, des candidates issues de milieux professionnels très variés. On a vu des candidates qui étaient auparavant dans l'armée de l'air, par exemple, dans certains États, qui étaient plus proches des mondes sociaux et qui remettaient sur le devant de la scène un agenda social qui avait fait cruellement défaut à Hillary Clinton, hein, autour des questions que nous avons déjà évoquées, sur la crise des opiacés, sur l'assurance maladie, sur toute une série de thèmes, hein, qui sont extrêmement sensibles pour une Amérique en souffrance, et arrêter de véhiculer un discours extrêmement optimiste sur l'Amérique conquérante, l'Amérique des nouvelles technologies et l'Amérique de la Silicon Valley. Et donc je crois que le Parti démocrate est en train de présenter un programme et des candidats et des candidates surtout qui lui permettront probablement d'avoir toutes ses chances, hein, pour les élections présidentielles dans 2 ans.
Ça a été beaucoup reproché à Barack Obama, à juste titre, selon vous, Laurence Nardon. Est-ce qu'il y a véritablement eu chez lui l'oubli d'une partie des États-Unis, avec peut-être une présidence trop portée sur la communication? Bref, quel jugement peut-on porter rétrospectivement sur la responsabilité de Barack Obama dans l'élection de Donald Trump?
Oui, effectivement, Obama avait déçu et il est difficile de faire un bilan absolument positif de ces 8 ans de présidence. Mais peut-être que sa faute la plus grave, effectivement, est d'avoir laissé Hillary Clinton se présenter en 2016. Alors, effectivement, elle faisait une campagne peut-être trop optimiste et en oubliant ceux qui souffrent aux États-Unis. Elle faisait également une campagne qui faisait... Alors, rétrospectivement, là aussi, peut-être trop de place aux minorités, qu'elles soient minorités ethniques ou minorités sexuelles ou femmes, etc. Et en oubliant l'électorat blanc qui a trouvé en Trump un champion. Enfin, alors, l'électorat blanc, pas dans sa totalité, mais enfin, ceux parmi la population blanche américaine qui se sentent inquiets de la transformation de l'identité du pays, ils ne sont pas la majorité, mais ils sont là et ils ont le droit de vote. Eh bien, ceux-là ont voté Donald Trump parce qu'il leur portait un message d'inquiétude et de volonté de fermer les frontières, ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais ça a changé. Je veux dire, le Parti démocrate, ce que l'on a dit au moment des midterms, c'est que celui-ci était de plus en plus au service de clientèle. Qu'il avait décidé donc de segmenter son offre politique, notamment en direction des minorités. C'est vrai, c'est faux?
Je ne parlais pas de clientèle. Je crois que le Parti démocrate a compris que les mondes sociaux sont très variés et qu'on ne peut pas réduire les États-Unis à des minorités urbaines très prospères, dotées d'un capital culturel, et qu'il y a une très grande diversité aux États-Unis et qu'il fallait adapter, hein, le discours et créer un programme qui soit un vrai programme national, hein, pour l'ensemble des corps sociaux. Et je crois que surtout le Parti démocrate a pris conscience, hein, de la grave crise sociale et sanitaire. Je me répète un peu, mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus, sur des indicateurs sociaux et démographiques qui sont très inquiétants aux États-Unis. États-Unis et qui sont inquiétants dans un autre pays qui est la Grande-Bretagne et qui, à mon avis, commence à devenir inquiétant en Angleterre. Je m'explique. On observe depuis une trentaine d'années un retournement démographique sans précédent d'une catégorie spécifique de la population américaine qui sont les hommes blancs, issus du milieu ouvrier de la petite classe moyenne, âgés de 35 à 55 ans. Et ces hommes meurent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie historique, hein, une anomalie dans le monde occidental où on voit que dans la plupart des pays, le taux de mortalité de cette population est en baisse depuis 30 ans parce que ces hommes font davantage attention à leur alimentation, font du sport, fument moins, mangent moins. Et on voit par exemple dans les pays d'Europe du Nord, ça chute de manière très très importante. Aux États-Unis, de manière très curieuse, la courbe remonte depuis 30 ans.
Comment explique-t-on cela ?
On l'explique par des économistes utilisent la formule de mort du désespoir. On a évoqué la crise des opiacés, il faut évoquer la malbouffe, le stress, les difficultés à avoir accès aux services de santé. Mmh. Et donc on a un renversement démographique qui existe aussi en Angleterre, c'est intéressant avec le Brexit. Et en France, on voit, et ce serait très intéressant d'avoir les chiffres récents pour le mettre en liaison avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est aussi un mouvement d'hommes blancs, 40, 50 ans, doté d'un faible capital culturel et éducatif, donc on est vivant dans un monde du non-travail. Hein,
vous feriez un parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et ce que l'on a qualifié de désespoir, de malaise de cet électorat, donc d'ouvriers américains qui considéraient ne pas être défendus par notamment la politique menée par Barack Obama, Romain Huret.
Oui, moi je le ferais sans problème. Je crois que ces catégories sociales vivent la même insécurité sociale. Hein, et j'insiste sur le thème d'insécurité sociale et pas seulement culturelle comme on l'entend très souvent dans les médias, puisque ces populations sont confrontées véritablement à de très graves difficultés sociales qui sont identiques, hein, et ce qui change, c'est que cette population-là ne l'était pas. Et donc le sentiment de déclassement, le sentiment de transformation profonde de leur existence, hein, le fait que leur vie est peut-être moins intéressante que celle de leurs parents et sans doute meilleure que celle de leurs enfants, est un point commun entre tous ces électorats. Et on commence à voir les conséquences politiques. Hein. On les a vus en Angleterre, puisque c'est cet électorat qui a voté pour le Brexit. On l'a vu aux États-Unis, puisque c'est cet électorat qui vote pour Trump. Et je crois que ce qui se passe en France nous dit la même chose et est peut-être une réponse à cette crise démographique et sanitaire et sociale que nous vivons.
Laurence Nardon.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ferais le même parallèle entre les sociologies de l'électorat populiste de Trump et le mouvement des Gilets jaunes en France, une révolte fiscale qui est portée par un peu le même genre de population. Ce qui m'amène à deux remarques, c'est que, d'une part, on pouvait croire toutes ces années en France que notre système redistributif si généreux, tout est relatif hein, évidemment, si généreux et l'encadrement social, l'existence d'un réseau sanitaire qui n'a pas d'équivalent aux États-Unis, allait nous protéger, allait protéger cette population en France de la colère, enfin du désespoir et de la colère. Ben, on voit bien qu'il n'en est rien. Et deuxièmement, une différence que je trouve intéressante, c'est la légitimité de la violence destructrice d'abribus, comme vous le disiez tout à l'heure, en France, alors qu'aux États-Unis, l'électorat de Trump, comparé aux Gilets jaunes, n'a jamais recouru à la violence. On n'a pas vu les électeurs de Trump aller casser des vitrines sur la 5e avenue ou des choses comme ça. Et je crois que là, ça pointe à quel point, dans notre histoire en France, lorsque le principe d'égalité est perçu comme violé, eh bien, la violence sociale devient légitime. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais pour revenir au Parti démocrate, je crois que il est quand même, même s'il a évolué depuis 2016 en tirant les leçons de la défaite et qu'il essaye aujourd'hui de construire un programme national, il reste aujourd'hui complètement éclaté entre plusieurs idéologies. Une idéologie un peu centriste, modérée, qui serait celle d'Hillary Clinton, et très multiculturaliste, très clairement. Mmh. Et puis l'aile gauche du parti, portée en 2016 par Bernie Sanders, qui est très radical et très très gauchiste, on dirait en termes français. Et ces deux partis ne sont pas du tout réconciliés dans la marche pour les présidentielles de 2020, pour l'instant.
Alors, est-ce qu'il y aurait déjà une incarnation, comme on dit ? Est-ce qu'il y aurait une femme, un homme qui pourrait réconcilier ces deux partis, ou en tout cas constituer un espoir, une candidature possible?
Alors je lisais Rolling Stones la semaine dernière, ils ont listé tous les candidats possibles ou déclarés pour certains d'entre eux pour les présidents, pour les primaires démocrates pour 2020, ils en comptent 27. Donc il n'y en a pas un, mais plusieurs. Il n'y en a pas encore un qui émerge, sauf si Romain Huret a d'autres informations.
Pas d'autres informations.
Est-il possible de présenter, alors peut-être pas les 27, mais parmi ces 27, certaines candidatures qui peuvent sembler plus solides que les autres?
Je pense que le débat devrait porter sur l'état social. Et à mon sens, la crise du mur est un débat autour de l'état social et quel état social on veut. Puisque Trump a fait un diagnostic qui, à mon avis, est en partie le bon sur la société américaine, et je crois que beaucoup de chercheurs en sciences sociales seraient d'accord avec cette idée du carnage, d'un carnage américain, mais ce carnage, je pense qu'on le retrouve dans d'autres sociétés. Et on évoquait pendant le journal de 8 heures le creusement sans précédent des inégalités dans le monde, et je pense que toutes nos sociétés y sont confrontées. Mais Trump a un logiciel politique, je trouve, très marqué par les années 80, et il a proposé deux solutions qui sont, un, le marché, la dérégulation, la baisse d'impôts. On est dans le prolongement de Reagan et de ce grand mouvement des années 80 de baisse massive des impôts et de confiance absolue dans la possibilité du marché de réguler les inégalités. Et ensuite, de développer l'état sécuritaire. Et je trouve que le mur me fait penser un peu au bouclier spatial de Ronald Reagan, cette idée qu'on va créer des murs, qu'on crée des boucliers qui permettent à l'Amérique de s'abriter. Et je pense que le logiciel de Trump, c'est un homme des années 80, Trump, égal.
Mais ça avait, parce que, oui, à l'époque, alors dans un registre complètement différent, ça avait plutôt servi Ronald Reagan, cette guerre des étoiles.
Absolument. Alors je ne sais pas si le mur sera créé, si le mur servira au final Trump et les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que Trump n'a pas développé l'état social. C'est-à-dire qu'il fait un constat.
Il n'a pas été élu pour ça.
On a évoqué la crise des opiacés. La réponse de Trump à la crise des opiacés, c'est de construire un mur.
D'accord.
Et je pense que tous les spécialistes qui nous écoutent concernant les pratiques addictives, la régulation des soins, etc., seraient horrifiés de dire que pour réduire le problème de la drogue en France, il faut simplement construire des murs entre les pays qui importent de la drogue en France et la France. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réflexion en termes d'état social. Et je pense que le Parti démocrate doit trouver une solution pour... Et c'est en cela que le clivage et une partie de son aile gauche qui veut recréer l'état social, qui veut augmenter les impôts. Alors le problème pour le Parti démocrate, c'est qu'une partie de l'électorat de Trump n'a pas envie d'entendre parler de l'État. Et c'est aussi un électorat des années 80. Ce sont des gens qui sont nés dans les années 80 où l'État a toujours été assimilé au mal, à la corruption, à l'inefficacité. Et je crois que l'enjeu pour le Parti démocrate, c'est d'arriver à trouver un système qui permette aux citoyens d'être convaincus que le renforcement de l'État social est une réponse au problème que traversent les États-Unis.
Mais alors, c'est quand même un peu étonnant, Laurence Nardon, parce que, bon, en France, on a, disons, quelques perplexités face à Donald Trump. Ce n'est pas un phénomène qu'on a des facilités à envisager, et on considère qu'en matière politique, il peut incarner un repoussoir. Toutefois, il demeure relativement populaire aux États-Unis, et lorsqu'on le compare, par exemple, à la popularité d'autres présidents, par exemple le nôtre, mais on pourrait aussi prendre Theresa May, on voit bien que les démocraties aujourd'hui sont relativement difficiles à gouverner, que les désamours sont assez rapides et assez violents. On n'observe pas la même chose pour Donald Trump.
Non, parce qu'en fait, sa double base, donc populiste et conservatrice, sur les deux dernières années, ont reçu ce qu'elles espéraient de ce président.
C'est-à-dire donc sa base tient.
Donc sa base tient à peu près 35% d'opinion favorable depuis le début, ce qui ne suffira pas à le réélire. Mais je suis d'accord avec Romain Huret.
Ça ne suffira pas à le réélire. C'est un choix relatif. Et dans ce choix relatif, alors 35%, ça n'est pas 50%, mais il y a d'une part un système électoral qui est un peu différent aux États-Unis, qui fait qu'on peut gagner avec la minorité des voix, ce qui l'a fait d'ailleurs lors des élections précédentes. Et d'autre part, il faudrait qu'il y ait un concurrent, une concurrente qui soit plus populaire qu'il ne l'est, ce qui aujourd'hui n'est pas prouvé.
Eh bien, vous avez raison. D'autant plus que Trump, dans la campagne pour les midterms de novembre 2018, il a vraiment pas cherché à élargir cette base dont je parle, cette double base. Il a au contraire vraiment creusé le sillon du nationalisme, du conservatisme, etc., pour vraiment les attirer sans chercher à élargir. Et donc on peut se demander dans ces conditions si une réélection est possible. d'autant plus, seconde raison, que j'ai parlé du fait que les démocrates n'étaient pas vraiment en ordre de bataille pour 2020. Ils n'ont notamment pas de ligne idéologique claire. Néanmoins, ils se sont énormément mobilisés pour voter là en novembre. Et donc ce qu'on pourrait dire, c'est que les électeurs démocrates aux États-Unis sont prêts à voter démocrate, même s'il n'y a pas de ligne claire, même s'il n'y a pas de leader charismatique qui se dégage. Et donc la réélection de Trump me semble moins évidente aujourd'hui.
Moins évidente, mais alors je vais continuer quand même à tenter d'être l'avocat de Donald Trump. Sur le plan politique, là aussi, il y a une sorte de prouesse chez lui, parce que c'est un milliardaire qui diminue les impôts pour les très riches, qui n'a jamais, mais alors absolument jamais, dit qu'il allait faire le moindre programme social, et cependant, cet homme bénéficie encore d'une grande popularité chez un électorat qui n'est pas un électorat très favorisé, puisque dans les centres urbains, il est plutôt minoritaire. C'est une sorte de mystère quand même pour nous, Romain Huret.
Alors, il fait un programme social, mais il fait un programme social en le déléguant au marché. Par exemple, en dérégulant les lois sur l'environnement et en permettant à des mines de réouvrir dans certains États, il a le sentiment qu'il fait du social, puisqu'il va permettre à des gens qui n'ont pas accès à l'emploi d'avoir accès à l'emploi. Alors, est-ce que cette habileté et habileté politique et politicienne lui permettra d'être réélu ? L'avenir le dira. Mais ce qui est certain, c'est qu'une partie de sa base, comme il a été dit, continue à le soutenir, même si elle s'effrite. On voit régulièrement des sondages qui insistent peut-être sur l'effritement de cette base électorale. Ce qui est certain, c'est que au regard, et on l'a peu évoqué, mais du caractère scandaleux, de la violence verbale quotidienne, des attaques, du caractère complètement erratique de son administration, des démissions à la chaîne, je pense qu'il a dépassé tout ce que les politistes pouvaient envisager pour un président. On est allé bien au-delà
Mais oui, c'est quand même étonnant, parce que on se souvient de certains présidents français qui, pour moins que ça, une injure lâchée alors que les micros étaient ouverts, étaient complètement déconsidérés. Alors ils traînaient cette injure comme un boulet pendant tout leur quinquennat, juste titre ou pas. Chacun jugera. Ce n'est pas la question. Mais Donald Trump, lui, lance une bordée d'injures chaque jour. Il fait à peu près le contraire de tout ce qu'on enseigne en matière de communication politique, et il est toujours à environ 35% d'opinion positive.
Je crois qu'on observe un mouvement qui est plus général qu'aux États-Unis. On voit très bien que les seuils de violence et les seuils d'acceptabilité de la violence augmentent dans nos démocraties, et que ce qui était tout à fait inadmissible il y a 30 ans ou 20 ans ou 10 ans dans la démocratie américaine est désormais toléré. Et les sociologues ont beaucoup travaillé sur l'idée que l'acceptabilité des seuils de violence renvoie également à des violences quotidiennes. Et le fait que les individus aient l'impression aussi de vivre des formes de violence extrêmement fortes. Et si on met cela en liaison avec l'insécurité sociale qu'on a évoquée, et le monde très violent qui est celui que connaît désormais un État comme le Kentucky, qui ne connaissait pas jusqu'alors, cette violence sociale au quotidien, la crise des opiacés, on n'a pas évoqué les suicides aussi qui sont très importants aux États-Unis, on n'a pas évoqué non plus le retour des soldats qui est un facteur, et la militarisation de la société qui est un facteur aussi, je crois, très important. On voit bien que la démocratie aux États-Unis, mais je pense d'autres démocraties, acceptent des seuils de violence du débat politique qui sont inédits et qui, à mon avis, risquent de le rester.
Il y a la question des seuils de violence, il y a aussi la question de la présidentialité. On n'arrête pas à en vulgariser, tenter de savoir si tel ou tel incarne la fonction présidentielle ou pas. Donald Trump, il incarne la fonction présidentielle ?
Il l'incarne à sa manière, et il l'incarne sans croire aux corps intermédiaires, sans croire à l'État. On n'a pas évoqué aussi le rapport très problématique qu'il a à l'État, puisque c'est un président qui a nommé des ministres qui ne croyaient pas à leur propre ministère. Donc il a fonction de leur ministère. On a vu un ministère de l'Éducation publique qui n'y croit pas, un ministère de l'Environnement qui est peu... Il a quand même... Les politistes parlent de tuer la bête pour désigner la manière dont on peut détruire de l'intérieur l'État. Et c'est donc on a un président qui a construit, d'ailleurs un peu de manière assez semblable à ce qu'a fait Macron, un rapport très direct avec son électorat en évoquant sa détestation des médias, du Congrès, de l'administration. Et je pense que c'est une manière d'incarner une hyper-présidentialité également.
Laurence Nardon, toujours dans le même domaine, parce que tout de même, on a du mal à comprendre comment, après ses comportements vis-à-vis des femmes, par exemple, certaines femmes peuvent continuer à voter pour lui. On a du mal à comprendre comment les minorités qui ont été bien souvent insultées par ses soins, eh bien là aussi, continuent à se porter vers lui.
Oui, mais je pense qu'il y a une explication supplémentaire que je vous proposerai sur le fait que ces violences et ces écarts de langage soient aussi bien acceptés, c'est qu'il les market d'une certaine manière, il les présente, il les vend comme la marque de la pureté de son âme en termes de positionnement anti-élite. C'est-à-dire que plus il transgresse, plus il s'affirme comme le président qui a véritablement compris le peuple et qui n'est pas dans la main des grands médias et du politiquement correct. C'est le terme
qu'il faut employer. Il n'est pas entre les mains du politiquement correct.
Et finalement, à chaque fois qu'il dit quelque chose sur les femmes, sur les handicapés, etc., eh bien, sa base se dit, mais vraiment, ce type n'obéit pas aux injonctions des campus libéraux, enfin progressistes du pays. Et ça renforce son image de... un peu comme Le Pen, le père, vous savez, celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est vraiment exactement ça. Et donc, finalement, plus il en fait, plus c'est efficace pour son positionnement.
Romain Huret, alors là aussi une question amusante, l'enquête russe ne trouble pas son électorat, les liens qu'il aurait avec la Russie pour quelqu'un qui se présente comme patriote?
Pour l'instant, non. Alors, l'enquête est en cours. C'est toujours très difficile de réagir sur une enquête en cours. Je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Si les faits sont avérés, ils sont extrêmement graves. Hein, donc,
en fait, il y a quand même. On voit bien, même avant que l'enquête ne soit arrivée à son terme, on ne sait pas à quel niveau sont les responsabilités, mais on voit bien que cet homme n'a pas joué franc jeu, qu'une partie de son entourage s'est rapprochée de l'administration de Vladimir Poutine. Bref, c'est quand même étonnant. Mais... alors que Ronald Reagan, lui, a construit toute sa popularité sur une opposition frontale à l'Union soviétique.
À nouveau, je pense que les seuils d'acceptabilité sont en train de changer sur la corruption des élites. Trump n'a jamais caché son passé d'homme d'affaires, a fait des choses tout à fait incroyables, comme ne pas publier sa déclaration d'impôt. C'est le premier président, pas candidat à la présidence, qui n'a pas publié sa déclaration. On se doute très bien, on imagine facilement pourquoi. Il a même lui-même dit qu'il était un résistant à l'impôt et que c'était très bien de ne pas payer l'impôt. Il a dit publiquement pendant un débat qu'il fait comme tout le monde en quelque sorte.
C'est pas très gilet jaune.
C'est parce que je suis intelligent.
Pour réagir, je pense qu'il y a quelque chose à ce que disait Laurence Nardou à l'instant. Trump a réussi à capter, comme beaucoup de conservateurs, il y a eu des travaux qui l'ont bien montré, le sens commun. Et Trump incarne cela. Il incarne le sens commun et il joue beaucoup de cela. Je lisais un tweet hier où il disait que il neige aux États-Unis en ce moment et donc c'est la preuve que le réchauffement climatique est une invention d'universitaires veulent gagner de l'argent. Mais je crois que cette captation-là, elle est intéressante et elle dit quelque chose de nos démocraties aujourd'hui.
Mais alors, justement, juste sur la question de l'impôt, sur la question de la richesse, pendant la campagne, il y avait cette scène tout à fait étonnante pour un Français où on disait que ça n'était pas un vrai milliardaire et lui disait « si, je suis un vrai milliardaire, je suis encore plus riche que ce que vous pouvez imaginer », alors qu'en France, les politiques font des efforts désespérés pour paraître beaucoup plus pauvres qu'ils ne sont. Comment vous expliquez ça ?
Je pense que c'est culturel. Le rapport à la richesse, à l'enrichissement, à la fiscalité n'est pas du tout le même. Il n'y a pas le débat français sur l'égalité et l'impôt sur le revenu et n'est pas le même aux États-Unis. L'enrichissement de certaines personnes fait partie des valeurs nationales.
Ça veut dire que les questions, parce que la question des inégalités, elle existe quand même au sein du débat politique américain.
Bien sûr, elle existe et elle est portée par l'aile gauche du Parti démocrate dont on parlait aujourd'hui. Mais il y a pour l'instant un consensus sur le fait qu'il ne faut pas augmenter l'impôt des plus riches, qu'il faut maintenir ces seuils d'imposition. Il n'y a pas encore de grand débat à la manière actuelle et française. Peut-être les choses vont changer avec cette nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Mais en l'état, il y a véritablement un consensus sur la fiscalité.
Et sur cette idée des inégalités, il reste très ancré dans la psyché américaine l'idée que c'est à l'individu de s'en sortir seul, c'est pas à l'État de vous aider. Alors c'est évidemment faux puisque les structures font que les inégalités s'installent du fait de la fiscalité, de la déréliction des services publics, etc. Mais l'idée reste que au final, si vous êtes pauvre, c'est quand même quelque part de votre faute. Et donc, l'État ne peut pas être incriminé. C'est le problème de l'aile gauche du Parti démocrate. Ils ont du mal à imposer cette idée.
Un mot de conclusion à cet égard, Romain Huret. Y a-t-il possibilité que ce shutdown se retourne contre Donald Trump. On voit que ça n'est pas le cas. Peut-être que ce shutdown, qui aujourd'hui a un record hystérique, puisque il a débuté le 22 décembre, va se terminer un jour tout de même.
Je crois qu'il faut l'espérer pour les fonctionnaires fédéraux aux États-Unis. Pour le reste, on va regarder attentivement ce qui se passe aux États-Unis. Et je suis très mauvais en prévision, donc je ne vais pas en faire.
Un dernier mot, Laurence Nardon.
Oui, juste pour redire que je pense que Trump fait un diagnostic qui n'est pas entièrement faux sur l'état de la situation de la société américaine, mais que ses solutions sont pas forcément toujours bien inspirées.
Les États-Unis de Trump en sans question, c'est le livre, Laurence Nardon, que vous avez publié aux éditions Taillandier, et La fin de la pauvreté, les experts sociaux et la guerre contre la pauvreté aux États-Unis de 1945 à 1974. C'est votre livre aux éditions de l'EHESS, Romain Hugrel.